café fraîchement moulu. Chez Tintico, l'art du café colombien, nous vous faisons voyager dans la cordillère des Andes. On vous propose du café responsable, issu du commerce direct, fraîchement torréfié, bien préparé et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du café en grains pour la maison.
Fan de rock progressif, Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 8 mai 2026. La Coalition Québec Meilleure Mine se dit alarmée à la lecture du rapport accablant par la vérificatrice générale du Québec sur les minéraux critiques et stratégiques. Pour la Coalition, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts se fait complètement avoir par le lobby minier et balaie les préoccupations des communautés locales. Délaissé par des services publics qui s'écroulent et pris à la gorge par le coût de la vie qui explose, les contribuables sont en colère de devoir payer, en plus, à coût de centaines de millions de dollars, les erreurs dogmatiques du gouvernement dans son gambling minier, a déclaré Maître Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine. Après plus de 50 ans à bâtir, rassembler et faire vivre un milieu professionnel et humain, le directeur général du Centre du Rocher, Pierre Morin, prendra sa retraite à compter du 3 juillet 2026. Son remplaçant, Guillaume Saint-Pierre, est issu du milieu des organismes à but non lucratif et du loisir. Il cumule plus de 15 ans d'expérience à mobiliser, développer et faire grandir des milieux de vie. Monsieur Saint-Pierre arrive avec une vision, une énergie et une volonté claire, soit de poursuivre l'élan impulsé par Pierre Morin, tout en écrivant la suite avec et pour la communauté du Centre. Dans le cadre du mois de l'Afrique, les Journées du livre africain de Québec, organisées par le Conseil panafricain du Québec du 8 au 10 mai 2026, la Maison de la littérature de Québec présentera deux événements littéraires samedi. Dans le premier, qui débutera à 14h, deux auteurs de la diaspora africaine partageront leur regard croisé sur l'Afrique et le Québec inscrit dans leur récente production littéraire. Dans le second, à 15h30, les autrices Ndei Kombaba et Natasha Pemba se demanderont notamment si les écrivaines africaines sont parvenues à vaincre les facteurs d'invisibilisation auxquels étaient confrontés leurs aînés. Les deux événements sont gratuits et l'entrée est libre. Sous le thème « Désencombrons les mythes », le collectif d'action pour le trouble d'accumulation compulsive invite la population à participer en grand nombre au ciné-webinaire. Ils sont proposés dans le cadre de la deuxième édition de la semaine de sensibilisation pour le trouble d'accumulation compulsive qui se tiendra du 11 au 15 mai. Ces ciné-webinaires qui auront lieu le 12 mai de midi à 13h30 et le 14 mai de 10h à midi seront l'occasion d'en apprendre davantage sur ce trouble de santé mentale qui touche entre 2 et 6 % de la population. L'inscription se fait au accumulationcompulsive.ca. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité.
S'ils faisaient usage d'un peu plus de jugement dans le choix de leurs activités, peut-être tous les hommes deviendraient-ils fondamentalement des étudiants et des observateurs, car il ne fait pas de doute que leur nature est destinée à tous, sont pareillement dignes d'intérêt. Lorsque nous accumulons des biens pour nous-mêmes ou notre descendance, lorsque nous fondons une famille ou un État, ou même lorsque nous nous attirons de la renommée, nous nous montrons mortels. En revanche, lorsque nous nous confrontons avec la vérité, nous sommes immortels. Nous n'avons à craindre ni accident ni changement. Le plus ancien philosophe égyptien ou hindou souleva jadis un coin du voile de la statue de la divinité. Et aujourd'hui encore, sa torche frémissante demeure levée et je contemple une gloire aussi fraîche qu'il le fit, car c'était moi qui me montrais si téméraire en lui et c'est lui en moi qui réitère sa vision aujourd'hui. Aucune poussière ne s'est posée sur cette toge, aucun temps ne s'est écoulé depuis que cette divinité fut dévoilée.
C'est une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressée de vous dire ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat
qu'il arrive.
Auprès de moi, je vous sais craintif et rêveur.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire.
Alors, Bienvenue dans toute simplicité. Aujourd'hui, on a un invité intéressant, Gabriel Grenier, qui va nous parler de son livre qui vient de publier chez Éco-Société, Forêt ancienne, l'expérience du fond des bois. Ça va être une très belle entrevue qu'on va avoir, très intéressante. C'est un peu dans le cœur de ce qu'on parle en toute simplicité, là, avec justement Henri-David Thoreau, dont je vous lis un extrait à chaque jour. Donc, je voulais un extrait à chaque jour, alors qu'il était un grand marcheur, comme notre invité Gabriel Grenier, un grand marcheur en forêt. Alors, voilà. Pour commencer, quelques lectures que j'ai faites cette semaine, quelques activités à vous proposer aussi. Dans le devoir de mardi, les microplastiques contribuent au réchauffement climatique. Ça, on n'avait pas vu ça. C'était un peu dans le champ à gauche. Les particules de microplastiques et de nanoplastiques ont envahi non seulement le sol et les eaux de notre planète, mais également son atmosphère. Une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change montre que ces particules en suspension dans l'air contribuent elles aussi au réchauffement climatique, et ce, particulièrement lorsqu'elles sont colorées. Cette découverte devrait donc inciter les chercheurs à inclure ces nouveaux acteurs du réchauffement climatique dans leur modèle. Alors, encore une fois, là, on n'avait pas prévu ça. Les problèmes avec le plastique ont même un impact sur le réchauffement climatique. Or, les microplastiques qui se retrouvent dans l'atmosphère absorbent le rayonnement solaire et en réfléchissent une portion lorsque la différence entre l'énergie solaire reçue et absorbée et celle réfléchie dans l'espace, que l'on appelle l'effet radiatif, est positif, c'est-à-dire que l'énergie absorbée est supérieure à celle qui est restituée. Les particules contribuent à réchauffer l'air qui les entoure. Ensuite de ça, toujours dans le même devoir là, de mardi dernier, lutte contre le méthane, possible solution à la crise énergétique. Des responsables gouvernementaux ont réclamé lundi une action plus rapide du secteur des énergies fossiles pour réduire les émissions de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. On dit que c'est deuxième contributeur du changement climatique après le CO2, le méthane a un pouvoir d'échauffement environ 80 fois supérieur sur 20 ans. Mais sa durée de vie plus courte fait de sa réduction une source de bénéfices climatiques importante. Et on propose aussi de réduire les émissions de méthane et aussi d'essayer de les récupérer parce qu'on pourrait utiliser ce méthane-là qui est gaspillé, qui s'en va dans l'espace, pour produire de l'énergie. Réduire les émissions de méthane demeure l'une des meilleures choses que nous puissions faire pour ralentir le réchauffement climatique, tout en assainissant notre air, en améliorant la santé publique et en renforçant notre sécurité énergétique, a déclaré le ministre britannique de l'énergie Ed Miliband dans un message vidéo. Alors, de ce côté-là, il y aurait une amélioration. On réduirait nos émissions, puis on pourrait avoir de l'énergie à bon marché. Après ça, quelques petits articles là, que j'ai retenus. Dans le devoir de lundi, on parle de la rivière Saint-Charles. Sous le béton de la rivière Saint-Charles, la plage, le cours d'eau qui traverse le cœur de Québec, demeure impropre à la baignade, tant 30 ans après sa renaturalisation amorcée par la ville. En 1996, la ville de Québec amorçait le démantèlement des murets de béton bordant la rivière Saint-Charles. 30 ans plus tard, les écrevisses et les rats musqués sont de retour sur les berges renaturalisées de ce cours d'eau sinueux. La baignade n'est toutefois pas pour demain, pour ces riverains accablés et les effets du réchauffement climatique. Alors, c'est magnifique ce qui s'est fait avec la renaturalisation de la rivière Saint-Charles qui était bétonnée avant. Avant d'être bétonnée, c'était une sorte de dépotoir, c'est épouvantable. On a amélioré, mais ce qu'on nous dit, c'est que malheureusement, on a encore des égouts qui se déversent dans la rivière Saint-Charles. Et le géographe Alexandre Brun, l'assainissement de la rivière Saint-Charles vaut la peine. Les services techniques de la Ville de Québec et peut-être même les élus ne prennent pas la mesure du symbole que serait le retour à la baignade. Monsieur Brun déplore l'essoufflement de l'élan porté par le sommet de la Terre de Rio en 1992. C'est paradoxal vu les effets du réchauffement climatique. Les rivières sont les instruments les plus concrets que les urbanistes ont à leur disposition pour rafraîchir les îlots de chaleur. Mais les villes n'ont pas réalisé combien la nature peut nous rendre service. Sauf que ça coûterait cher. Là. Ça serait un chantier énorme. La Ville de Paris l'a fait pour la Seine. Et alors, suggestion pour nos gouvernements de terminer le retour à une rivière naturelle et saine. Aussi, un autre texte que j'ai trouvé intéressant dans le devoir de mercredi sur les réunions Zoom au travail. c'était à la page B. 1 du devoir de mercredi, pour ceux que ça intéresse. C'est une réflexion sur les réunions Zoom. Trop, peut-être pas, mais les travailleurs s'y sentent souvent inutiles, révèle un sondage. Ça a été toute une amélioration de pouvoir, pendant la pandémie, continuer à fonctionner grâce, entre autres, à l'application Zoom. On a tous fait des réunions Zoom, sauf qu'il y a des effets négatifs. Alors, c'est une réflexion pour ceux qui s'intéressent. Je n'irai pas plus loin. Puis, dernier texte que j'ai retenu, c'était dans le devoir de jeudi. Voyage, les temps actuels exigent un certain recul face à ce privilège. C'est un texte de Francis Ouellet. Qui réfléchit bien sur le privilège que nous, les gens, les pays riches, qu'on se donne en voyageant. C'est pas qu'il faut pas voyager, mais il faut quand même réfléchir qu'on a un impact important sur les émissions avec le voyage. Jean-Marc Jancovici, lui, disait, c'est peut-être extrême pour certains, là, mais de limiter à environ 4 le nombre de vols en avion par individu au cours d'une vie. Et il disait que, dans le fond, c'est le résultat d'un calcul visant à rendre le trafic aérien compatible avec l'accord de Paris. De toute manière, il est probable que les vols diminuent radicalement et deviennent de plus en plus coûteux. On le voit déjà. Peut-être est-ce précisément ce qui pousse tant de gens à voyager aujourd'hui en profitant pendant qu'il y a encore temps. Le moment viendra où ces possibilités se refermeront pour un nombre croissant de personnes. Alors, c'est pas mal ça dans mes lectures de cette semaine. Ceux qui s'intéressent aussi, pour la fête des mères, samedi à dimanche, l'organisme Mères au front organise une nuit écologique autour de l'Assemblée nationale. Il va y avoir des activités, des tables rondes, une marche. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous n'avez qu'à aller sur le site Internet de Mères au front. Et dans la section « Activités », c'est l'activité dans la fin de semaine, le 10 mai, je pense. En tout cas, l'activité de dimanche. Alors, voilà. Alors, on prend une dernière petite pause musicale, puis après ça, on va aller discuter avec notre invité, M. Grenier, des forêts anciennes. We'll be right back. Alors, Welcome to the Machine. C'est une réflexion, mais Welcome to the Machine, un peu, je vous en parlais tantôt, le Zoom, l'intelligence artificielle, les microplastiques et aussi, on va parler des forêts, la machinerie qui est très efficace pour récolter nos forêts. Et ce que ça fait, c'est que nos forêts sont tous des forêts secondaires, des forêts dégradées. Et en début d'émission, je vous parlais d'Henri David Thoreau, qui était un grand marcheur, qui marchait en forêt beaucoup, beaucoup, mais lui-même était conscient, en Nouvelle-Angleterre, toutes les forêts anciennes avaient été coupées, parce qu'à l'époque, on chauffait au bois. Là, c'est seulement qu'au début du 19e siècle qu'on a commencé à utiliser le charbon. Puis, alors, ce qui fait que toutes nos forêts, même ici, ont été coupées. Il n'y en a plus de forêts anciennes. Même à Québec, si vous regardez des vieilles photos des dessins du Cap Diamant, au 19e siècle, il n'y avait pas d'arbres dans le Cap Diamant parce que les gens les avaient coupés probablement pour chauffer avec. Puis, d'ailleurs, ça avait causé des éboulis au Cap Diamant. L'érosion avait fait ça. Aujourd'hui, ben on a des beaux cèdres qui poussent le Cap Diamant, qui sont magnifiques, mais ils n'ont pas plus que, dirons, 70-80 ans, ces cèdres-là. Alors, c'est pourquoi je vous parle de ça, c'est que notre invité, Gabriel Grenier, qui est avec nous, qui a écrit un livre sur les forêts haïtiennes, c'est comme Thoreau, un grand marcheur qui va dans des forêts, essayer de trouver des forêts anciennes, des arbres anciens. Et son livre, que je vous recommande vraiment, Forêt ancienne et magnifique, parle de tout ça. Alors, bienvenue, M. Grenier, ça va bien. On va se tutoyer, Gabriel.
Oui, c'est parfait. Gabriel. Merci de m'accueillir. C'est toujours le fun de parler des vieilles forêts.
Ah, c'est ton livre, c'est comme un peu comme si tu nous contais un peu là, les vieilles forêts. Puis en même temps, il y a un propos là, qui est scientifique. Alors, c'est un bel équilibre, là, comme Thoreau, d'ailleurs, qui était très, très scientifique et poète en même temps.
C'est agréable de se faire comparer à Henry David Thoreau.
Ben, c'est un peu notre mentor à l'émission aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup le sujet d'aujourd'hui, parce que Thoreau, entre autres, est un grand marcheur. Il marchait 4 heures par jour en forêt. Et lui, son rêve, c'était de voir des vieilles forêts. Je pense qu'il a réussi à réaliser son rêve parce qu'il est allé faire une longue marche dans le Maine, dans les forêts du Maine. Et je pense qu'au milieu du 19e siècle, il y en avait peut-être...
Le Moose Lake. Ouais, j'ai lu son... Il y avait un des livres qu'il a écrit d'ailleurs sur le Maine Woods, je pense.
Maine Woods, exactement. Puis je pense...
Ça, c'est pas très loin de lac Mégantic. Quand on prend la ligne droite ici au travers de la frontière, le Moose Lake est quand même assez proche.
Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, quand Thoreau est allé là, il a pu voir des forêts anciennes ou même là, il n'y en a resté plus?
À cette époque-là, je suis pas mal sûr qu'il y en avait. Hein. Okay. Parce que, tu sais, on était avant la mécanisation. Là. Puis, tu sais, avant la mécanisation, avant les tracteurs, avant tout ça, la récolte était confinée au bord des rivières. Ou... Okay. Dès qu'on montait un peu trop dans les terres, c'était absolument pas rentable d'aller là. Là.
OK.
Surtout que ça, c'était avant l'ère des pâtés papiers. Fait que, la coupe totale n'était pas rentable. Fait que c'était surtout de l'écrémage. On coupait les gros arbres. Là. Oui, près des villes, comme tu as décrit, le bois de chauffage, c'est un enjeu important. Là, mais les populations étaient quand même beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui. Fait que, dans les forêts loin, surtout le nord du Maine, c'est très peu peuplé.
Oui, oui, oui. Mais lui, Thoreau marchait autour de Concorde, qui était à peu près à 30 km de Boston. Et toutes les forêts avaient été bûchées plusieurs fois au milieu du 19e siècle. Puis, curieusement, Thoreau, quand même, il y avait de la forêt, mais c'était des forêts comme nous, nos forêts qu'on peut dire dégradées. Là. Mais, curieusement, Thoreau, ce qu'il préférait, en tout cas autour de lui, c'était les marais. Puis, je me demande si, en arrière de ça, c'est qu'il se disait pas, bien, lui, le marais, il est comme qu'il était à l'origine. C'est comme une forêt ancienne, mais parce que là, les marais sont pas exploités par les hommes. Là, sont tels qu'ils étaient depuis toujours, là, je pense.
Oui, oui. Ben, c'est sûr que on a coupé quand même des arbres proches des marais, mais c'est sûr que comme c'est un milieu humide, ça a moins de valeur. Ça n'a pas été nécessairement défriché par l'agriculture. Il y a Et tu sais, juste par un fait anecdote, là, moi, quand j'avais été visité au musée des sciences de Harvard, il y avait une exposition sur taureau. C'est lui, il avait justement documenté dans le comté où ce était la flore de manière assez scientifique. T'sais, c'est une méthode qu'on a pu aujourd'hui, mais comme il a décrit la méthode qu'il a utilisée, là, je me souviens pas c'est en quelle année, là, mais ils ont pu le refaire aujourd'hui. Puis tu sais, à peu près le tiers de toutes les espèces qu'il avait trouvées à cette époque-là sont plus là aujourd'hui. Puis il y avait aussi un tiers d'espèces qu'il n'y avait pas à cette époque-là qui sont arrivées. C'est des espèces exotiques envahissantes. Fait que tu sais, c'est quand même un relevé botanique historique de grande valeur. Là. Les travaux qu'ils ont fait, il est moins connu pour ses travaux en botanique, il est plus connu pour sa plume littéraire, là, mais il a apporté une très grande contribution.
Là. Là, pour nos auditeurs, je voudrais juste qu'on parle de toi là, pour qu'on sache qui est notre invité, à part d'être l'auteur de ce très beau livre-là chez Éco-Société, là, Forêt ancienne. Je comprends bien, on dit en arrière, Gabriel Grenier arpente les forêts d'ici et d'ailleurs depuis plus de 20 ans. Il a été technicien en foresterie, enseigne désormais en aménagement de la forêt au Centre de formation professionnelle Le Granit à Lac-Mégantic.
Oui, moi j'enseigne au DEP, dans le fond. C'est, le nom du DEP, c'est Aménagement de la forêt. J'enseigne aussi dans d'autres DEP, là, mais c'est principalement celui-là.
OK. Puis je vois que tu es curieux comme taureau. Là, tu parles à un moment donné que tu supposais qu'il y avait une forêt, je ne sais pas si c'était en Abitibi, en tout cas une forêt ancienne, parce qu'elle était comme dans le milieu d'un marais, là, puis tu t'es passé dans. Tu as traversé le marais là, avec beaucoup de difficultés pour te rendre à la fameuse forêt. Puis je pense que c'est que tu nous dis qu'il y a des forêts anciennes, des forêts primaires, il y a toutes sortes de vieux arbres, là, c'est complexe là.
Ouais, puis tu sais, c'est sûr que ce qu'on a dans, moi j'étais dans le sud du Québec là, l'exemple que tu décris c'était à Saint-Édouard en Estrie là.
Okay.
C'est oui, c'était des vieux arbres puis ça avait jamais été bûché, j'en suis convaincu parce que c'était trop petit puis c'était inaccessible en réalité. Là.
Okay.
Fait que tu sais pour se rendre là pour une machinerie, ça aurait été impensable. Puis tu sais les cèdres, il y avait quand même quelques beaux cèdres mais ça reste quand même pas un arbre de très très grande valeur le cèdre là, contrairement mettons à l'épinette ou du pin. Fait que tu sais si le cèdre est trop difficile d'accès, ils vont pas le couper là. Fait que c'est souvent ça dans le sud du Québec. Quand on va dans le nord, il y a quand même des blocs de forêt là, qui n'ont pas été bûchés, qui sont primaires. Là. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a pas été modifiée par la main humaine. Puis une forêt ancienne, ben, c'est une forêt primaire qui est aussi des vieux arbres. Parce que ça peut être une forêt qui n'a jamais été bûchée, mais qui a été eu un feu de forêt, mettons, il y a 100 ans, ou il y a eu une épidémie d'insectes il y a 30 ans. Ça fait que les arbres seraient jeunes quand même. Une forêt ancienne, c'est des vieux arbres.
Oui. Et entre autres, moi, ça m'a toujours fasciné, j'en avais parlé un peu à l'émission déjà, c'est que quand Jacques Cartier est arrivé ici au Québec, on avait ce qu'on appelle aujourd'hui les forêts primaires, c'est-à-dire que il y a eu la glaciation, qui les glaciers ont fondu, on avait la mer de Champlain, là, une bonne partie de après la glaciation, mais il y a environ 10 000 ans, autour de là, le glacier il a fondu, et on a eu des forêts qui se sont installées. Et quand Jacques Cartier est arrivé ici, les forêts avaient des milliers d'années déjà.
Le premier retrait de glacier, c'est à peu près 11-12 000 ans. Puis les premiers humains sont passés d'ailleurs par Mégantic. Là. Il y a un détroit qu'on appelle le Coban Gore. Puis ils ont remonté le plus vieux site archéologique du Québec est ici à Lac Mégantic. Puis ils ont suivi les forêts, là, les caribous, là, jusqu'au nord. Là.
À ce moment-là, au début, c'était complexe parce que le glacier, je pense que quand il a fondu, il y a eu une période que le climat était assez doux, même, je pense, plus doux que maintenant. Et on avait des pins géants qui avaient poussé, qui sont disparus. Là. Puis, on n'a plus rien de ça. Apparemment, ça devait être très, très spectaculaire, les forêts primaires. Je pense qu'on n'en a plus aucune trace. On n'est pas certain d'à quoi ça pouvait ressembler. Là. Ça pouvait ressembler, mais pas tout à fait pareil comme les forêts qu'on voit, mais c'est pas les mêmes forêts du tout, là, qu'on voit en Colombie-Britannique, les anciennes forêts là, avec les arbres géants. Là. Mais je pense pas que les arbres étaient aussi géants qu'en Colombie-Britannique.
C'est sûr que si on prend il y a des données historiques qui existent, mais tu sais, les données historiques, des fois, c'est du monde qui décrivent, ou des photos anciennes, mais tu sais, à partir du moment que c'était des photos, c'était quand même assez récent. Mais il y a quand même des données, on appelle ça des données biologiques, qu'elles ne mentent pas. Là. Ils prennent, mettons, dans des tourbières, des carottes pour étudier les pollens qu'il y avait. Le pollen, quand il se décompose, il y a comme une couche du pollen qui se décompose pas. Et ça, donc, ils sont capables de prendre selon la profondeur de la carotte dans le sol, de reconstruire la migration des espèces vers le nord. Fait que, au début, c'était juste de la toundra. Après ça, graduellement, tu as eu d'autres arbres qui sont arrivés, puis la forêt a changé. Fait que ça permet quand même de voir que oui, la proportion de pins était déjà plus grande à l'époque. Il y a des endroits qui avaient plus de chênes, des fois plus d'épinettes. Il y a des sortes d'arbres, dans le fond, qu'avec l'arrivée des Européens qui ont pris de la valeur, ce sont les peupliers puis les bouleaux à papier, parce que quand on rajeunit les forêts, ces deux arbres-là, tu sais, ils prospèrent dans ce genre d'environnement-là. Fait que, tu sais, oui, ils sont capables de documenter le changement de composition forestière. Quand on veut regarder, par exemple, la taille des arbres, ça, c'est plus difficile. Tu sais, il existe des mentions là, de pins qui avaient atteint 60 mètres là, dans le sud du Québec. Là. Mais, tu sais, ça, c'est des mentions historiques qu'on peut pas nécessairement corroborer avec des faits. C'est, par exemple, facile à comprendre dans l'optique que les belles terres agricoles aujourd'hui ou les villes, c'était là où il y avait les plus belles forêts, tu sais, c'était les meilleures conditions de croissance. Donc, on peut facilement s'imaginer que les arbres qui poussaient autant que Jean Cartier est arrivé, ben les arbres étaient plus grands parce qu'on était tous dans la plaine du Saint-Laurent où on était dans des beaux coteaux du bouclier canadien ou de... Et je sais que quand il est arrivé, il décrivait les arbres comme il y avait des pins blancs comme des parasols au-dessus de la forêt. Là. Fait que, ça devait être quand même merveilleux de voir les forêts à cette époque-là.
Très spectaculaire. Puis la litière aussi. Aujourd'hui, qu'on peut plus vraiment voir ça, mais la litière était très, très épaisse. C'était comme ce que j'ai comme compris. Ça devait être comme si on marchait sur un matelas quand on marchait dans les anciennes forêts.
Ben, je sais que moi, j'ai marché quand même dans des secteurs... quand c'est ça, qu'il n'y a pas eu de coupe, que ça n'a pas été défriché, c'est vrai que tu mets ton pied dans terre puis ça rentre un peu dans terre. Là, c'est comme si ton pied il s'imprime dans le sol. Là. Ils disent d'ailleurs que le réseau mycorhizien, là, les champignons dans le sol, ils le remarquent, là, où est-ce que tu piles. Là. Parce qu'en réalité, quand tu piles, tu défais des petites branches, tu défais des affaires, fait que ça expose des nouveaux substrats là, que les champignons vont s'empresser de coloniser. Là.
Exactement. Puis d'ailleurs, actuellement, là, je sors un peu de notre sujet, là, mais de plus en plus, au niveau du jardinage, en tout cas, on va s'orienter vers la permaculture, qui justement, la permaculture, c'est de préserver les sols, d'essayer de ne pas perturber les sols pour développer toute la vie microbienne des champignons qu'il y a dans le sol. Puis à ce moment-là, on n'a plus besoin de travailler le sol. C'est la vie qu'il y a dans le sol qui ameublit le sol. C'est pour ça que tu dis quand tu cales dans le sol, c'est que quand tu cales dans le sol, ça veut dire que ton sol est très vivant. Puis quand ton sol est mort, il est compacté. Là.
Ouais.
Bon, on va prendre une petite pause musicale. Puis on va poursuivre avec un peu plus concrètement là au niveau des forêts anciennes là, ou des arbres anciens qu'on peut voir actuellement au Québec. Alors, on prend une petite pause musicale. Pour retour, on poursuit notre discussion sur les forêts anciennes. Alors, on va poursuivre notre discussion. C'était le Diarmuid O'Mitchell, c'est un Irlandais. Et la pièce, c'était The Star of Munster and Castle Kelly. Alors, Gabriel, entre autres, tu nous parles de... Pour ceux qui voudraient voir des vieux arbres ou des anciennes forêts, j'ai vu, entre autres, dans la région de Québec, mais il y en a un peu partout quand même, il y a des vestiges d'anciennes forêts. Peux-tu nous en parler un peu d'endroits où ce que les gens pourraient aller pour expérimenter ce que c'est une vieille forêt, une forêt ancienne?
Ben moi, dans mon livre, j'ai mis à la fin un annexe là, qui englobe les EFE, les écosystèmes forestiers exceptionnels de type forêt ancienne sur terre publique, mais j'ai inclus aussi des bosquets urbains, parce que des fois, il y a des vieux arbres, mais qui ne sont pas nécessairement toutes des forêts anciennes. On va aller dans Lotbinière voir des vieux chênes là, de domaine joli de Lotbinière. On pourrait aller dans le Mont Wright, là, un peu au nord de Québec. Là. Ça pourrait être... C'est moi, ici, à Sherbrooke, là, il y a un boisé qui s'appelle le Parc Victoria, qui a des vieilles pruches qui pognent 300 ans et même plus. Là. Fait que, il y a comme un peu partout au Québec des traces de vieux arbres, mais quand on veut vraiment voir toute la structure des vieux arbres, beaucoup de bois morts, la différence de hauteur entre les arbres, la biodiversité, des fois, c'est des boues, des salamandres. Ben, tu sais, il y a des forêts comme la forêt ancienne du Petit Lac Alexandre dans la capitale nationale. Là. Mais tu sais, se rendre-là, c'est quand même un peu sportif. Là. Ça peut être plusieurs kilomètres en forêt, plusieurs kilomètres de chemin de bois en auto. Mais ça vaut la peine. Moi, j'adore ça, explorer ces forêts-là.
Il y a une qui est facile d'accès, c'est à Québec, c'est la forêt du Mont Wright à Stoneham. Là, ça appartient à la ville de Stoneham. Là, puis il y en a une forêt ancienne.
Oui, ça, c'est un des vestiges. Ça, c'est beau, d'ailleurs, des très, très beaux bleus jaunes. Il y a quelques belles épinettes rouges.
C'est toute une histoire aussi, cette forêt-là. Tu l'expliques dans ton livre. Pourquoi faire qu'on peut avoir à certains endroits? Il y a différentes raisons, là, soit parce que c'est inaccessible ou il n'y avait pas de valeur commerciale, ou, etc. Puis là-bas, c'est particulier. C'est un soldat de l'armée britannique de Wolfe là, qui a hérité ou qui a acheté cette parcelle-là. Puis qu'il avait décidé, lui, que cette forêt-là ne serait jamais coupé, bûché, puis ça restait en famille, jusque dans la famille, jusque dans les années 60. Alors, c'est un cas spécial, disons, mais je pense qu'il y en a d'autres comme ça au Québec aussi.
Oui, bien, il y a eu, maintenant, à Montérégie, le réserve écologique du Boisé des Muirs, hein, qui a comme été documenté comme... Ça restait toujours dans cette famille-là depuis très longtemps, puis ils faisaient juste récolter un peu de bois pour leur fin domestique, mais tu sais, ils commercialisaient pas de bois, fait que leur impact était quand même limité. Aujourd'hui, tu as une très vieille érablière, c'est une des érablières anciennes les plus étudiées dans le sud du Québec, là.
Puis, ces forêts-là, ce qu'il y a de spécial, je t'en parle dans ton livre, là, on vit comme une sorte d'expérience spéciale. Là, on sent quelque chose de spécial qu'on sent pas dans les forêts qu'on voit habituellement. C'est peut-être l'ancienneté des arbres, je sais pas qu'est-ce qui fait ça.
Moi, c'est sûr que tu sais, le fait que je travaille en foresterie, tu sais, j'ai quand même l'œil pour les détails. Là, fait que, tu sais, mais quand on se met à regarder les vieux arbres, on voit les racines saillantes, tu sais, la cime tordue, le gros tronc dégarni, le bois mort, des fois qu'il y a un mètre de diamètre enjambe ça, puis il y a plein de mousse, plein de champignons. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a une ambiance dans ces forêts-là que je trouve pas nulle part ailleurs. Un peu comme si je les découvrirais à la pointe des pieds, là, comme on découvrirait le royaume fantastique là, d'Alice au Pays des Merveilles. Là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, je trouve, de magnifique dans ces forêts-là.
Bien, le taureau, d'ailleurs, pour revenir à taureau, il est venu au Québec. Il a marché de Québec jusqu'au Canyon Saint-Anne. Puis, il était arrêté à Montréal, puis il avait été visiter la cathédrale Notre-Dame à Montréal, qu'il a trouvé très belle. Puis, il dit que c'était un bel endroit pour se recueillir. Mais il dit, moi, dans le fond, j'ai ma propre cathédrale, j'ai pas besoin de ça. Puis, quand il parlait de ses propres cathédrales, il parlait de la forêt. Alors, faut être un observateur, là, comme tu dis. Puis quand on observe les arbres, quand on observe la nature, c'est comme si on touchait à l'âme de la nature un peu.
Bon, et puis les forêts, veulent pas au Québec, il y en a partout. Là, tous les champs agricoles qu'on a aujourd'hui, c'est des forêts qu'on a enlevées de leur nature propre. Là, mais ça n'existe pas vraiment des champs agricoles au Québec. Là. Tout ce qu'on laisse pousser, ça va reprendre. Puis, tu sais, ces forêts-là, les odeurs, les sons, les textures, tu sais, la température qui change quand tu rentres. Tu sais, il y a vraiment un monde, c'est très bon pour le cerveau même, tu sais, même pour les odeurs, pour le système immunitaire, pour la posture, c'est activer les muscles stabilisateurs. Tu sais, juste aller en forêt, c'est quelque chose, mais en plus, quand tu es conscient que tu es là, puis que t'as, que ces forêts-là datent de l'origine, là, tu sais, du retrait des glaciers, puis même avant ça, il y a eu plein de glaciations, puis les forêts sont revenues, puis sont parties, puis sont revenues beaucoup de fois.
Oui, 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 oui. Mais disons que pendant un bon bout de temps, il y avait... penses-tu que la forêt, il y a eu des... Dans les interglaciaires, la forêt revenait, ça se peut, hein?
Oui, oui, en revenait.
OK.
Oui, mais... c'est des glaciations du Quaternaire. Il y en a eu sur des millions d'années, je ne me souviens pas c'est combien.
Là, mais il y a une dizaine, je pense.
Oui.
Oui, c'est ça. Fait que nous autres, ce qu'on peut observer, mais genre, je pense qu'il n'en reste plus, là, des vestiges qui datent... De la glaciation, je ne pense pas qu'on a encore ça au Québec. Hein?
Ben, dans le fond, pendant la glaciation, il n'y avait plus de forêt. Là. Ouais. Il y avait un rabot de glace de 1 à 3 km de haut sur la grandeur du...
C'est ça.
C'est même, j'avais lu un livre sur l'archaïque, là, qui est un moment... En tout cas, ils ont nommé des époques là, au Québec. Là. Tu sais, c'est déjà chassé du morse à Québec. Là. C'est juste que ça fait très longtemps.
Oui, oui. Ben, pendant la mer de Champlain, là, tu sais, c'était de l'eau salée. Ouais. Hein, même... ils ont fait du carottage en haut du Mont-Saint-Hilaire. Là. Il y a le lac là, qui est en haut du Mont-Saint-Hilaire.
Ouais, ouais.
Puis ils ont trouvé des coquillages de mer salée. Ça veut dire que c'était la mer salée là, en haut du Mont-Saint-Hilaire. Fait que ça donne une idée. Là. On était en dessous de la mer après un bout de temps ici. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça... ce que tu dis aussi, ça, c'est une autre chose, c'est que on a une perte de biodiversité. Quand les forêts atteignent une maturité, une vieille maturité, on retrouve des espèces, une biodiversité beaucoup plus riche que les forêts qu'on est habitué de voir, là.
Oui, c'est ça. Des fois, c'est des espèces spécifiques. Des fois, il peut en avoir moins en nombre absolu, mais on les appelle des espèces spécialistes. Là. Ils vont être, par exemple, très bonnes pour fixer l'azote. Ou il y en a d'autres qui vont être très bonnes pour vivre dans des environnements humides. Il y a des lichens, tu sais, qui grimpent sur le tronc des arbres. Puis plus la forêt reste vieille pendant longtemps, plus on va les trouver haut dans les arbres. Là. Il y a des lichens qui sont spécialisés juste dans les vieilles forêts. Il y a des coléoptères, il y a plein d'affaires de même. Là. Mais tu sais, quand ils ont évalué notamment le boisé des murs, là, ben, ils ont trouvé des sortes de champignons qui n'avaient jamais été découverts au Québec. Il y en a même qui n'avaient jamais été découvert de la science. Là. Puis, ces petites espèces-là, là, si y en a qui me posent la question, ça sert à quoi? Ouais, mais au bout de la ligne, nous autres, on cherche à attribuer des fois des valeurs utilitaires, là, mais les espèces vivent par leur propre raison d'être. Là. C'est un peu comme des... Moi, je compare ça des fois à une boîte à outils. Là. Et tout ce qui se passe, là, les perturbations, perturbations de la pluie, la chaleur, les nouveaux insectes, tout ça, ben tous les petits insectes, les formes de vie, les plantes qui vont pousser mieux dans telles conditions, ben ça permet, dans le fond, à la vie, à la forêt, d'exprimer sa résilience si elle est pleinement diversifiée. Fait que, tu sais, moi, j'ai écrit ce livre-là justement pour que les gens visent la santé globale des forêts, là, tu sais, qu'il y ait des forêts jeunes, moyennes, puis vieilles, pour qu'on préserve l'entièreté, dans le fond, de la biodiversité, là.
Puis c'est commencé même dans les villes, dans la façon que les villes vont nous demander de laisser pousser les pissenlits là, au mois de mai, là, part du mois de mai. Mais c'est parce qu'il faut ramener les insectes. Il y a une espèce d'effondrement des populations d'insectes un peu partout. Et moi, je l'ai remarqué dans mon quartier où, avant, je sortais prendre des marches le soir, là, puis on voyait beaucoup de chauves-souris, puis là, on n'en voit plus de chauves-souris.
OK. Ah ouais.
Puis là, ben les chauves-souris, ils se nourrissent d'insectes.
Oui, oui. Ça, d'ailleurs, ils aiment les vieux arbres creux, tu sais, proches des cours d'eau. Fait que ça, c'est un petit plaidoyer pour la préservation des vieux arbres.
Oui.
Mais je comprends qu'il y a l'enjeu aussi des insectes. Là. Tu sais, si on n'a plus de points d'eau là, pour avoir multiplié les insectes, ben, ils vont avoir moins de nourriture pour tous les oiseaux insectivores ou les mammifères comme les chauves-souris.
C'est que ça nous rattrape, la perte de biodiversité. Là. Dans ton livre, tu parles des tourtes. Là. Peux-tu nous en parler un peu, l'histoire qu'on a découvert des tourtes, là?
Ouais, mais tu sais, les tourtes, ça a déjà été un oiseau extrêmement abondant en Amérique du Nord, là. Tu sais, il y en a qui estiment même que c'était 25% de la biomasse aviaire. Fait que, tu sais, c'était très, très... Puis, tu sais, quand on regarde les premiers écrits, là, ils décrivaient que quand les envolées de tourtes étaient tellement nombreuses que ça obscurcissait le ciel, là, tu sais, comme lors d'une éclipse ou des choses comme ça. Puis quand ils se sont demandés, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, la tour est disparue aujourd'hui, là, je pense que ça fait un peu plus de 100 ans, je crois. Mais qu'est-ce que ça fait qu'elle ait disparu? Ben, la tour, elle se nourrissait des arbres, tu sais, des semences d'arbres feuillus, par exemple, des noix de chêne ou des noix de noyer ou de châtaignier. Fait que, tu sais, qui va manger ces noix-là aujourd'hui, vu que la tour les mange pas? Ben, tu sais, ces noix-là tombent au sol, puis ça va être surtout mangé par des mammifères au sol, notamment la souris à pattes blanches. La souris à pattes blanches est un des vecteurs de la maladie de Lyme. Fait que, tu sais, David Blockstein, un scientifique senior au Conseil national pour la science et l'environnement, il a même émis l'hypothèse que, tu sais, la disparition de la tourte pourrait même augmenter les résurgences ou les cas de maladie de Lyme, tu sais, plusieurs années plus tard. Fait que, tu sais, ce débalancement-là qui a été créé il y a 100 ans, c'est comme un écho qui nous frappe aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, c'est quand même capoté à quel point toutes les espèces sont imbriquées, là. On peut pas prendre une espèce puis l'enlever puis présumer que ça fait rien, tu sais, c'est tout accroché au reste. C'est pas une espèce qui vit de manière autonome, y compris les humains.
Alors, c'est ça, ça nous rattrape. Alors, on réalise pas, mais toutes ces pertes-là. Alors, comme les insectes, moi, c'est classique. Les gens le disent que quand j'étais jeune, quand on partait faire un tour d'automobile, surtout en campagne, là, ben, l'automobile était couverte d'insectes, là, quand on revenait à la maison.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, on voit plus ça, là.
C'est vrai qu'ils sont plus propres, on dirait.
Ben, il n'y a plus d'insectes, là, t'sais. On en voit beaucoup moins. Alors, tout ça, là, ça nous rattrape.
Idéalement, il faudrait qu'à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, on se fasse piquer par les maringouins.
Ben oui, exactement. Ça serait bon signe, là.
Ouais, c'est ça. C'est comme un retour de l'environnement, là.
Oui. Comme qu'on parlait de la rivière Saint-Charles, là, on a renaturalisé les berges, qui est magnifique, là, mais... Vraiment, l'idéal, là, c'est ce que les urbanistes disent, c'est ramener les rivières dans les villes, des rivières saines.
Oui, pas des égouts.
Ça, là, malheureusement, c'est pas pour demain qu'on va pouvoir se baigner dans la rivière Saint-Charles.
Des petits insectes, il y en a un, mettons, une sorte de guêpe parasitoïde là, qui était peu connue avant, là, mais tu sais, quand ils se sont mis à l'étudier, elle parasitait des œufs de l'arpenteuse de la pruche, qui est un insecte qui mange surtout les forêts dans l'est du Québec, là, mettons Gaspésie, même jusqu'à Terre-Neuve. Mais quand ils ont vu cet insecte-là, tu sais, il était capable de contrôler jusqu'à 80%, dans le fond, de manger jusqu'à 80% des œufs. T'sais, de l'arpenteuse de la pruche, là, parce que ça parasitait. La femelle à pond dans l'œuf, c'est tout petit comme guêpe, là, mais t'sais, ces petits insectes-là, puis toutes les formes de vie en général là, sont vraiment importantes, même si nous, on n'est pas capable de lui donner de valeur aujourd'hui. Ça va servir, t'sais, ça sert déjà, c'est juste qu'on le sait pas, dans le fond.
Exact. Écoute, Gabriel, on va prendre une autre pause musicale, puis il va nous rester quelques minutes là, pour conclure. Qu'est-ce que c'est qu'on retire de tout ça, là, l'enseignement que les forêts anciennes ont nous donné. Alors, on prend une petite pause musicale. Alors, on est de retour avec notre invité Gabriel Grenier, qui est l'auteur du livre dont on parle ce matin, Forêt ancienne chez Eco Société. La pièce musicale qu'on vient de jouer, je pense que vous avez aimé le titre. Le nom de l'album, c'est Flore Laurentienne.
Okay.
Et la pièce, c'est Kamouraska. Puis, dans ton livre, tu nous parles de Kamouraska. Je pense qu'il y a des arbres spéciaux là-bas,
ouais,
à Kamouraska.
Ben, le genévrier, ouais, ça sent bon. Tous les cabourons là, de la côte du sud, là, un peu avant Lillet jusqu'à Kamouraska, il y a vraiment une odeur, je trouve, ces petites montagnes-là. Là. C'est un petit arbuste, là, mais ça fait les baies de genièvre que les gens associent au gin.
Oui. Puis, tu n'as pas mentionné aussi qu'il y a des gros arbres aussi à Kamouraska?
Il y en a, là, tu sais. Moi, j'en ai... Ben, c'était pas à Kamouraska. Ah oui, peut-être le gros pin de Mont-Carmel, en haut de Mont-Carmel. Là.
C'est ça.
Ouais, ça, c'est vraiment un gros pin qui atteint probablement les dimensions précoloniales. Là. Parce que c'est vraiment un gros pin avec un tronc dégarni, pas de branches. Tu passes à côté de ça, t'entends quasiment les voiles de navires britanniques, puis l'odeur salée. Là. Wow. Parce que, tu sais, ces pins blancs-là, dans le fond, ils servaient surtout à la marine britannique. Là. C'est pour ça qu'ils avaient été coupés à l'époque. Là. Mais d'ailleurs, lui, il reste là. Fait que c'est un des plus beaux pins qu'on a au Québec. Là.
Et où, au juste, à Kamouraska?
C'est à Mont-Carmel, en réalité. C'est en haut, là.
Okay.
C'est pas tout à fait. Faut que tu montes d'intérieur.
OK, OK. Puis, est-ce qu'il est dans le village ou c'est quand...
Il y a un chemin. Moi, j'ai pas été le voir, là, mais tu sais, Alexis Riopelle, dans Le Voir, avait fait un article là-dessus. Tu sais, mes cousins, ils ont déjà été aussi, là. Fait que c'est...
OK.
Fait que faut que tu fasses un bout de chemin en forêt. Faut que tu saches où, là. Il n'est pas direct dans
les... OK. Fait qu'il faudrait peut-être lire l'article d'Alexis Riopelle sur...
Ouais.
OK. OK. Bon, alors, ben, il nous reste 3-4 minutes pour conclure. En tout cas, moi, ce que je retiens un peu du livre, c'est la magie des forêts anciennes. Là, puis, c'est pas toujours facile à les trouver, mais il y a quelques endroits qui sont répertoriés dans ton livre.
Puis moi, je me dis, tu sais, les forêts anciennes, si on veut leur donner une chance, là, ben, tu sais, il faut comme s'y attacher. Tu sais, vrai qu'on reconnaisse la valeur à ces forêts-là. Parce que, tu sais, traditionnellement, on voyait la valeur du bois que ça avait. Fait que, tu sais, on coupait les arbres pour que ça repousse, là. Mais, tu sais, si on reconnaît la valeur esthétique ou biodiversité ou le carbone ou retenir les coups d'eau, là, tu sais, tout ça, dans le fond, c'est quelque chose qui dépasse le mercantilisme de tous les jours. Là. Fait que, tu sais, je trouve ces valeurs-là plus... Moi, j'ai écrit justement ces forêts anciennes, l'expérience du fond des bois, parce que c'est, je trouve que c'est comme ça que ça va gagner du terrain pour que les gens tombent en amour avec les arbres, avec les forêts. Là.
Oui, puis l'extrait que je lisais de Thoreau, tu sais, de devenir des observateurs de la nature, des scientifiques aussi, comme Thoreau, de prendre le temps de pas marcher distraitement en forêt, mais regarder ce qu'il y a. Puis déjà là, même une forêt qui est dégradée, malheureusement, c'est notre lot. Là, la majeure partie de nos forêts sont dégradées, mais même ces forêts-là, ils peuvent nous apporter du bien-être, du réconfort, puis c'est des sources d'émerveillement là, sans fin. Là. Marcher en forêt, c'est merveilleux.
Tout à fait d'accord.
c'est merveilleux, mais c'est ça. Alors, il y a quelques endroits, dont, entre autres, je pense que dans la région de Québec, le plus accessible, là, c'est la forêt du Mont-Wright. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région de Québec?
Ben, dans Saint-Tite-des-Caps, tu sais, c'est pas très loin. Là. Tu montes un peu après Cap-Tourmente. Fait que, tu sais, il y a quand même des forêts anciennes reconnues par le ministère avec des sentiers qui passent dedans. Tu sais, les sentiers sont un petit peu plus difficiles, là, mais il y en a que tu pourrais faire des boucles plus simples. Il y en a deux, d'ailleurs, dans ce coin-là. Là.
Okay.
C'est la forêt ancienne du Cap-Brûlé et la forêt ancienne des eaux de la Grand'Anse.
Ah, OK. OK. Puis ça, est-ce que c'est des forêts qui sont bien identifiées ou qui appartiennent à une municipalité ou quelque chose du genre?
C'est des terres publiques, là. C'est des territoires publics. Fait que c'est le gouvernement du Québec qui en fait la gestion, mais il y a un parc. Il y a un parc là, qui gère les sentiers et les droits d'accès. Fait que, moi, j'en ai parlé dans mon livre. Fait que, tu sais, il y a moyen de trouver, en tout cas, sur Internet.
OK, OK. Parce que le Mont-Wright, c'est assez facile. C'est vraiment un parc de la ville, de la municipalité de Stoneham.
C'est
tout aménagé. Il y a même un accueil. Puis,
Mais tu sais, le boisé Marly, il y a quand même quelques vieux arbres aussi à Québec, là, dans le boisé Marly.
Ah, OK.
Ça vaut la peine d'aller prendre une petite marche là-dedans. Hein.
Le boisé Marly, ça, c'est dans Sainte-Foy, je pense, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça un peu... Ouais.
OK.
Je ne l'avais pas inclus dedans parce que je n'avais pas de données à savoir si c'était réellement ancien ou pas, là, mais je l'ai remarché par après, ce boisé-là, avec les gens de l'Université Laval. Puis, il y a quand même quelques vieux arbres.
OK. Bon, écoute, malheureusement, là, l'émission achève, alors on va devoir arrêter ça là.
Merci de m'avoir invité. En tout cas, c'est toujours plaisant de parler des biens forêts.
Merci d'être... moi, j'ai beaucoup aimé ton livre. Alors, on était avec Gabriel Grenier, comme je disais tantôt, auteur du livre « Forêt ancienne, l'expérience du fond des bois », paru chez Éco-Société. Ça vient tout juste de sortir. On s'est d'ailleurs parlé un peu au Salon du livre là, au mois d'avril.
Ouais, à Québec, ouais.
Alors, merci encore. Bienvenue. Puis, pour ceux qui voudraient partager ou s'informer, on va mettre ça en ligne sur notre site web. Là, vous avez juste à écrire Simplicitaire dans Google. Et la semaine prochaine, on va parler du Petit Prince, le livre de Saint-Exupéry qui fête ses 80 ans de publication avec Jean Désy qu'on a eu dernièrement, qui nous a parlé du philosophe Thomas de Conin, qui, on disait, était Petit Prince, mais il y a un peu de légende urbaine, mais il y a aussi du vrai, parce que Antoine de Saint-Exupéry, il est venu à Québec, il a vraiment été passé une soirée avec la famille de Conin quand Thomas de Conin était enfant. Donc, il y a un peu de vrai dans la légende. Et on va parler de Saint-Exupéry, avec Jean Désy, qui a bien connu Monsieur de Coninck, parce que c'est lui qui a dirigé sa thèse en philosophie. Alors voilà. Alors merci encore, Gabriel, et à la semaine prochaine, tout le monde.
Merci, bye-bye.
Bye.
3 Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si tu achètes une carte cadeau de 20$, nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça, tu peux l'offrir à quelqu'un de la rue et vraiment faire une différence, et ça, dans l'intimité. Passe nous voir au coin du Pont Saint-Joseph.